Bonjour, dimanche, les Françaises et les Français retourneront aux urnes pour élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 6 juillet entre les candidates et les candidats en lice, le 7 juillet. Toute cette semaine, en direct de midi à 13h, nous recevons des candidates et des candidats des 5 circonscriptions de la Sarthe pour débattre des enjeux de la constitution de la prochaine Assemblée nationale dissoute par le président de la République au soir des résultats des élections européennes. Est-ce que la majorité présidentielle conservera ses députés pour soutenir la continuité politique du président de la République? Est-ce que le Rassemblement national confirmera sa victoire aux élections européennes dans l'ambition de voir arriver sa tête de liste au poste de Premier ministre? Est-ce que le nouveau Front populaire réunissant tous les partis de gauche parviendra à devenir une nouvelle alternative politique? Et est-ce que les Républicains retrouveront autant de sièges après le séisme du choix de leur président de faire alliance avec le Rassemblement national à l'encontre de la posture de ses dirigeants qui n'y étaient pas favorables? Rappelons que le député est celui qui se fait l'écho des préoccupations qui touchent sa circonscription à l'Assemblée nationale. En liaison avec les élus locaux, il se préoccupe de la situation économique, sociale et plus globalement de toute situation qui concerne sa circonscription. Il a un rôle particulièrement important puisque c'est lui qui vote les lois. Il peut donc émettre des observations et des propositions pour faire progresser la législation et améliorer son application. Enfin, les députés contrôlent l'action du gouvernement. Ils peuvent interroger directement les ministres, soit par des questions écrites, soit par des questions orales, lors des séances à l'Assemblée nationale. Pour ouvrir ces échanges débats, nous recevons aujourd'hui 3 candidatures de la première circonscription comprenant le centre-ville et le nord-ouest du Mans, Sillé-le-Guillaume, Conlie, Beaumont-sur-Sarthe, Saint-Paterne et Fresnay-sur-Sarthe. Julie Delpech, députée sortante Ensemble pour la République majorité présidentielle. Ghislaine Bonnet, candidate La France insoumise, investie par le nouveau Front populaire. Et Clément Coulon, candidat Les Républicains. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Sont aussi candidates sur la première circonscription Sylvie Maillet pour Lutte ouvrière et Céline de Cossé-Brissac du Rassemblement national qui n'a pas donné suite à notre invitation à débattre. Première question à chacune et chacun d'entre vous. Après une brève présentation de votre parcours et afin que les électrices et les électeurs puissent mieux vous connaître, pourquoi êtes-vous candidate ou candidat sur cette première circonscription? Le tirage au sort a désigné pour commencer Ghislaine Bonnet, candidate La France insoumise, Nouveau Front populaire.
Bonjour, je suis Ghislaine Bonnet, candidate LFI pour le Nouveau Front populaire. Je me présente de nouveau à ces élections. Je me suis déjà présentée en 2022 avec ma suppléante, on dit en réalité remplaçante, Nathalie Buchaud, qui est du Parti des écologistes. Écoutez, la situation est hyper grave. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale comme s'il jouait au dé. Sa déroute aux élections européennes l'a poussé à jouer un jeu très dangereux. Il a placé le RN aux portes du pouvoir. Face à cette situation gravissime, toute la gauche fait front. Contre le Front national, une seule voix, l'union de toutes les gauches. Dans la foulée, un programme de rupture a été signé par les 5 partis, LFI, PS, PC, les écologistes et le NPA. Le RN pour nous, c'est non. Macron, c'est non. Et moi, personnellement, je n'ai pas hésité un seul instant pour reconduire ma candidature lors de ces élections européennes avec
Élections législatives.
On est encore... Tout va très vite. Et l'objectif, c'est d'être présent, bien sûr, au second tour et puis d'arracher cette circonscription à ma collègue macroniste, Julie Delpech.
Clément Coulon, pourquoi êtes-vous candidat pour la première circonscription de la Sarthe au titre des Républicains?
Bonjour, Clément Coulon. Donc, je suis président des Républicains de la Sarthe depuis quelques mois. Mais cet engagement politique, il remonte à quelques années, étant donné que j'ai commencé à militer à l'âge de 13 ans au sein de l'UMP, puis des Républicains. La raison pour laquelle je suis candidat, elle est simple. Aujourd'hui, dans la première circonscription, mais aussi comme dans de nombreuses circonscriptions en France, Si vous n'êtes pas macroniste ou plus macroniste, et si vous ne souhaitez pas voter pour les extrêmes, vous n'avez pas la possibilité d'exprimer une voix, si ce n'est celle du vote blanc. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité pouvoir porter cette candidature, et aussi pour pouvoir parler au nom de cette majorité silencieuse qui est très présente également dans les territoires ruraux qui sont les grands oubliés.
Julie Delpech, vous êtes la députée sortante Ensemble pour la République, majorité présidentielle. Pourquoi êtes-vous à nouveau candidate ?
Bonjour, merci pour ce débat. Donc moi, Julie Delpech, 34 ans, donc candidate pour Ensemble la République. J'ai effectivement été élue députée donc en 2022 et cette dissolution de l'Assemblée nationale, brutale pour tout le monde, y compris pour nous, mais dans une situation très grave avec un très fort score du RN aux européennes. Et moi, j'ai souhaité être candidate à ma réélection parce que depuis 2 ans, que ce soit au Parlement ou sur le territoire, on a pu faire avancer un certain nombre de sujets, il faut continuer. Et surtout, je suis moins engagée, alors quelques années après M. Coulon, depuis mes 16 ans, mais surtout j'ai ce souvenir de 2002, moi, de mes parents très inquiets de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et donc moi j'ai ce souhait et c'est mes valeurs depuis que je me suis engagée en politique, de toujours combattre les extrêmes. Et donc je retourne à cette réélection aussi pour dire aux gens que la France de demain, c'est pas une fatalité, c'est pas la France des extrêmes. Moi j'ai un bébé et je veux pas qu'il vive dans cette France-là, donc c'est ce qui guide mon engagement.
Clément Coulon, concernant la première circonscription pour laquelle vous voulez devenir député, comment se déroule votre campagne et que vous disent sur le terrain les habitants que vous rencontrez par exemple dans vos réunions publiques ou encore sur le marché ?
Alors cette campagne est assez express, on a dû mettre un petit peu de temps pour se lancer, préparer tout ce qui était administratif, également pouvoir préparer nos documentations, les tracts, et ensuite on est assez rapidement parti sur le terrain. Les Sartois que je rencontre sur le terrain me disent leur lassitude en fait du débat politique global. À la suite des européennes, on leur en remet une tournée avec les législatives, et on sent une colère qui gronde et qui monte, et... je pense qu'il y a eu un vote sanction lors des européennes, mais je ne suis pas persuadé, en tout cas à titre personnel, qu'ils vont poursuivre dans ce sens, même s'il est possible que le Rassemblement National fasse des sièges supplémentaires. Mais en tout cas, on sent qu'ils souhaitent un sursaut et qu'ils ne se résignent pas.
Clément Coulon, quand vous dites qu'il y a une colère qui gronde et qui monte, comment elle se manifeste, cette colère ?
Alors elle se manifeste déjà pour quelque chose de très simple que moi je déplore, mais je pense qu'elle peut être déplorée également par mes autres collègues des autres partis politiques. On n'a jamais vu les affiches sur les panneaux officiels autant arrachées. C'est quelque chose sur lequel il y avait auparavant du respect. Après, il y avait la bataille sur l'affichage public naturellement, mais sur l'affichage officiel, c'est quelque chose de nouveau. Et après, même sur les échanges qu'on peut avoir avec les gens, ils n'ont pas envie de débattre. Ils n'ont plus envie de débattre. Pour eux, ils sont résignés et c'est fini. Et voilà, maintenant, on laisse faire. Mais je pense que nous, notre génération, j'ai 29 ans et je pense qu'il est de notre responsabilité de s'engager.
Julie Delpech, comment se déroule, vous, en tant que députée sortant de votre campagne sur le terrain ?
Écoutez, je fais
qu'est-ce que vous disent les gens ?
Pardon. Moi, je fais campagne. Oui, je suis députée sortante, mais je fais campagne comme si c'était une élection classique. Et moi, ce que j'entends beaucoup, évidemment, j'ai fait 2 ans de terrain. Donc, les gens que je rencontre m'expriment aussi des choses qui ont avancé sur le terrain. Mais ce que j'entends, c'est effectivement, moi aussi, une profonde inquiétude suite aux élections européennes et cette dissolution dans la foulée qui pose des questions aux gens. Le débat public aussi au national. Moi, les gens me disent « j'y comprends rien ». C'est très flou. Et en fait, je pense que d'un côté, le président des Républicains qui rejoint le RN, mais pas tous les Républicains. D'un côté, la gauche qui part divisée aux Européennes, qui recrée un nouveau Front populaire alors qu'il n'était plus d'accord il y a de ça quelques semaines. Tout ça rend les choses très floues, en plus de la dissolution. Donc moi, je sens de l'inquiétude, des gens un peu perdus et effectivement une envie de changement, mais... Là, les gens ne savent plus trop où donner de la tête. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit sur le terrain.
Alors, Julie Delpech, par rapport à ce que vous dites, que c'est très flou pour les gens, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas participé à rendre très floues les choses en faisant ni droite ni gauche, ou et droite et gauche ?
Moi, je pense que c'est les différentes positions en fonction des élections, donc qui sont des choix purement électoralistes, qui rendent flou les choses. En 2017, les gens sociaux-démocrates, les gaullistes se sont rejoints pour un projet. Et cette ligne-là, elle est toujours vraie en 2022. Je pense que ce qui rend flou, c'est aussi tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais moi, j'entends tout à fait que cette dissolution et aussi les difficultés que la campagne a pu avoir à se mettre en route rend les choses complexes pour nos concitoyens.
Gisèle Bonnet, qu'est-ce qu'on vous raconte, vous, sur le terrain, par rapport aux préoccupations des gens? Qu'est-ce que vous observez par rapport à votre campagne?
Moi, si vous me le permettez, je vais déjà mettre une petite chose au point, parce que j'ai entendu parler tout de suite des extrêmes. Je voudrais dire ici, rappeler que le Conseil d'État, en date du 11 mars 2024, a requalifié le Rassemblement national dans une mouvance d'extrême droite et a précisé que LFI est un parti de gauche, non pas d'extrême gauche. Donc il faudrait que les choses soient claires, la sémantique est très importante. Alors moi, ce que je constate sur le terrain, c'est de la colère effectivement, mais de la colère et de la déprime des gens, mais de la déprime et de la colère qui viennent de quoi? Qui viennent en fait du fait que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qu'il y a de la misère énorme, que les gens ne savent plus quel est l'avenir pour leurs enfants. La société est devenue un quelque chose de d'indéfinissablement complexe, et ils s'y retrouvent plus. Personne ne s'y retrouve plus. Et ils savent pas à quel âge ils vont prendre leur retraite. Jusque là, 64 ans, mais il y a du flou. Il y a du flou dans si j'ai commencé tôt, est-ce que je vais partir quand même à 64 ans ou... Et puis qu'est-ce que je vais avoir comme retraite? Il y a plein de gens qui me disent, moi, je viens de prendre ma retraite, voilà, j'ai que ça pour vivre, moins que ce que j'avais prévu. On me dit, j'ai 1000 euros, j'ai 1200 euros, c'est un flou absolu. Hein. Et quelle vie après la retraite, étant donné que la santé est mise à mal et que on sait, nous, par exemple dans la Sarthe, que nous vivons dans un désert médical très important. Hein. Les Français ont le mental en berne.
Julie Delpech, vous pensez que les Français, puisque c'est votre majorité présidentielle qui avait décidé de mettre la retraite à 64 ans, c'est flou pour un certain nombre de personnes ?
Alors moi, j'ai reçu beaucoup de gens pendant les débats sur la réforme, effectivement. Il y a les gens...
Que vous avez voté, hein ?
Alors, on l'a pas voté, il y a un 49-3.
Ah, c'est vrai.
Donc non, mais moi je souhaitais aller au vote et j'assume. Je pense que
si vous l'auriez voté, vous l'auriez.
Effectivement,
voté.
Je l'aurais voté parce qu'elle est nécessaire. Je pense que quand on est élu, si on est responsable, on ne fait pas que des choses populaires. Sinon, on ne fait rien. Et moi, j'entends le retour de la retraite à 60 ans. Enfin, 62 ans, peut-être 60 ans, c'est 50 milliards que ça coûte. Comment on le finance? Ça va être soit sur les gens qui travaillent, soit en baissant les pensions. Moi, j'attends vraiment le financement du programme du Nouveau Front Populaire qui coûte quasiment le PIB du Portugal. Faut le dire, on cherche aujourd'hui 10 milliards d'économies. Moi, j'attends de savoir comment on finance, et si ce n'est par une hausse d'impôts déjà annoncée. Sur cette réforme, je l'assume, elle était nécessaire. Sur les gens qui commencent tôt, évidemment que ce n'est pas un départ à 64 ans. Les carrières longues sont évidemment prises en compte.
Comment vous allez financer, justement, dans le cadre de cette démarche de ramener la retraite? Alors, je crois que dans un premier temps, vous avez parlé de 60 ans, et finalement, c'est 62, puis on verra peut-être à 60.
Non. Nous sommes un rassemblement de différents partis. Donc, évidemment, il y a des négociations. Il faut qu'on soit tous d'accord. C'est l'essentiel. Nous sommes tous d'accord sur une retraite à 62 ans, tout de suite. Dès qu'on est au pouvoir, c'est 62 ans tout de suite. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il y a de l'argent, simplement, il faut aller chercher peut-être dans d'autres poches que celles des plus démunis.
Mais où
il y a des poches qui sont archi pleines.
Mais vous savez que ça représente pas 50 milliards d'euros. Moi, j'ai voté la taxation des super profits. Je l'ai voté et ça rapporte pas 50 milliards d'euros. Donc, où allez-vous chercher l'argent?
Il y a d'autres financements possibles. Notre programme a été chiffré. Vous pouvez écouter.
Non, mais je vois les dépenses, je vois pas les recettes.
Si, les recettes sont entièrement compensées par les dépenses. Bah 150 milliards de dépenses, 150 milliards de recettes.
Bah, c'est quoi les recettes? Moi, c'est ce que je me demande.
Mais vous voulez que je vous les dise tout de suite?
On y viendra juste après concernant le pouvoir d'achat, si vous voulez bien. Pour vous, Clément Coulon, la question de la retraite, alors que, dont on parle moins hein, dans cette campagne, mais, et dont on avait beaucoup parlé il y a 2 ans, vous, évidemment, vous restez sur la retraite à 64 ans.
Alors oui, moi je ne suis pas du genre à faire...
Vous prévoyez même 65, je crois, il y a deux ans.
Exactement, exactement. Moi, je ne suis pas du genre à changer le cap en fonction des élections et faire des annonces sensationnelles pour dire « Rassurez-vous, au lendemain des élections, dès le 8 juillet, tous ceux qui ont plus de 60 ans seront tous à la retraite parce qu'au bout d'un moment, il faut faire preuve de sérieux budgétaire. » Et c'est pas juste par idéologie que je le dis. C'est juste pragmatique. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir poursuivre en ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je souhaite que la génération de mes grands-parents continue à toucher sa retraite, que la génération de mes parents, de cette France qui bosse, puisse également toucher sa retraite, parce qu'ils cotisent depuis des années, mais il faut aussi ne pas hypothéquer l'avenir des jeunes générations qui, eux aussi, auront le droit à la retraite.
D'ailleurs, vous savez ce que disent la nouvelle génération, de toute façon, nous, la retraite, on n'en aura pas.
Exactement, et je fais partie de ceux qui considèrent que, oui, il y a des risques pour notre retraite. Mmh. Mais c'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut protéger le système. Mmh. Et un système, justement, ça se protège.
Et on faut rappeler aussi que pour avoir des conquis sociaux, il faut aussi se battre. En tant que député, vous serez amené à prendre part aux orientations et aux mesures pour la nation. Plusieurs domaines préoccupent les électrices et les électeurs. Nous aborderons dans ce débat le besoin de sécurité et la dégradation du climat. Mais... dans la priorité de leur priorité, c'est leur pouvoir d'achat qui va majoritairement décider les électeurs. Redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est une promesse de toutes les formes politiques, sans exception, en augmentant les salaires ou en bloquant les prix des carburants, de l'énergie ou des produits de consommation courante. Dans un premier temps, quelles mesures économiques et sociales préconisez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat des Français ? Ou réduire la précarité? Le tirage au sort, pour commencer, vous a désigné Clément Coulon, pour le candidat pour les Républicains.
Sur la question du pouvoir d'achat est un vrai sujet. Et je pense que c'est partagé par l'ensemble des partis politiques, même si on n'y apporte pas la même réponse. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, je pense qu'il est important de marcher sur deux jambes. La première, c'est réindustrialiser notre pays. Il est important de pouvoir relancer économiquement, massivement, la force des entreprises françaises. Parce qu'une France industrialisée, une France qui reprend une dynamique industrielle, c'est aussi une France qui a des salariés. Et donc je pense que c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième, c'est valoriser également cette France qui travaille. Et donc ça passe par baisser les cotisations salariales pour rapprocher le brut du net, déplafonner totalement les heures supplémentaires. Aujourd'hui, le plafond a été relevé de 5 000 à 7 500 euros, mais je pense qu'il est important aussi de pouvoir valoriser cette France-là. Mais après, on peut également parler des baisses sur les droits de donation, de transmission, et je pense qu'il est essentiel aussi, d'énergie, de pouvoir à la pompe, que ce soit moins cher en ayant des baisses des taxations sur l'énergie.
Julie Delpech, comment on redonne du pouvoir d'achat aux personnes qui attendent impatiemment de pouvoir boucler les fins de mois et ne pas manger que des pommes de terre au milieu de mois?
Tout à fait.
Et ou des pâtes.
Là où je rejoins Clément Coulon, c'est sur la réindustrialisation. On a réouvert, on a créé 400 usines. C'est pas rien, il y a eu 2 500 000 créations d'emplois, on a le taux de chômage le plus bas et de travailler, évidemment que ça contribue au pouvoir d'achat. Là où je rejoins, c'est sur tous les coûts, l'inflation, on a protégé les Français de l'inflation, on est le deuxième pays d'Europe avec l'inflation la plus basse, et même si elle est importante et qu'elle est difficile, on a mis des choses en œuvre, il faut continuer. Moi je crois dire le salaire minimum à 1 600 euros, c'est un gros danger, puisque beaucoup de TPE et PME, moi, m'écrivent en disant je vais être obligé de licencier, ou alors de payer les gens au SMIC, et ça je pense que c'est très dangereux pour le pouvoir d'achat. Clairement, moi je rejoins sur notamment les successions. On propose de supprimer les frais de notaire pour les plus jeunes et les classes moyennes et populaires jusqu'à 250 000 euros. Tout ça, c'est déjà prévu puisqu'on a déjà dans le dernier programme un fonds de 2 milliards d'euros prévu pour cela. Il y a la rénovation des logements qui a déjà commencé et qu'il faut absolument poursuivre.
Et donc après, ça, c'est pour réduire l'énergie.
Et après, moi je crois beaucoup qu'il faut des actions ciblées. Et là où je ne rejoins pas Monsieur Coulon, c'est sur la baisse sur notamment le carburant. C'est que si on baisse la TVA, rien ne nous garantit qu'ils vont baisser les prix. Par contre, il y aura une plus grosse marge. Donc moi, ça, c'est des choses qui me posent question. On peut baisser les taxes, mais on n'a jamais la garantie que derrière, ça induise une baisse des prix. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer comme on l'a fait, aller sur des aides ciblées plus performantes. Nous, on propose aussi d'étendre la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Elle est exemptée aujourd'hui déjà d'impôts et on propose qu'elle puisse aller jusqu'à 10 000 euros. Donc ça, c'est des choses concrètes, au cas par cas. Chacun est dans des situations différentes, mais je crois qu'il faut pouvoir cibler mieux les aides pour aider nos compatriotes les plus démunis.
Julie Delpech, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, puisque vous étiez présente au débat du premier tour et du second tour, on avait beaucoup évoqué évidemment le pouvoir d'achat parce que tout augmentait, c'était l'inflation galopante. Vous avez des mesures à proposer pour rassurer les Français sur leur pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, en tout cas pas fait, puisque aujourd'hui encore, ce qui a été fait sous ces deux mandatures, eh bien, les Français reviennent à la charge et encore plus mécontents qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans.
Mais je vous rejoins, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Je pense qu'il faut savoir faire son mea culpa. Je pense qu'il y a des choses qu'on a faites, qu'on a mal expliquées, on a manqué de pédagogie. Il y a des choses qu'on n'a pas faites, où on n'est pas allé non plus assez loin. Et cette dissolution, c'est aussi une... Moi, je pense que ça doit envoyer un message sur une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon d'écouter les Français. Moi, je crois au référendum, par exemple, et je pense qu'on n'en a pas fait assez. Alors, je crois pas au référendum sur tout et n'importe quoi, mais je pense que sur
pas
des
sur
questions...
l'immigration, du coup.
Pas sur l'immigration, c'est vrai, je vous le dis, on pourra en reparler, je doute pas qu'on en reparlera. Mais sur les sujets de pouvoir d'achat, par exemple, qui sont le quotidien des Français, je crois beaucoup qu'il faut qu'on puisse les écouter. Donc, mais moi, je ne dirais pas qu'on n'a rien fait.
Ma question, c'est pourquoi vous le proposez aujourd'hui, vous ne l'avez pas proposé hier ?
Moi, les référendums, depuis 2022, j'y suis favorable.
Alors, pourquoi votre majorité l'a pas
proposé ? Ce n'est
pas
moi qui décide d'un référendum et tout le monde n'est pas favorable à ça dans ma majorité. Là. C'est moi la candidate sur la première, donc je vous parle à titre personnel que j'y suis favorable. mais aussi, cette nouvelle Assemblée nationale va devoir aussi ouvrir. Et moi, je trouvais que c'était une chance déjà d'avoir une majorité relative parce qu'on devait... plus travailler, écouter les autres. Et on verra la configuration de l'Assemblée nationale le 7 juillet. Moi, j'ai des craintes, des inquiétudes sur une majorité du Rassemblement national. Je pense que ça nuirait gravement à notre pays. Mais en tout cas, on devra tous travailler ensemble.
Ghislaine Bonnet, vos propositions, vos préconisations pour améliorer la vie quotidienne des gens, parce que c'est ce qu'ils réclament dans cette élection.
Une première petite remarque, c'est que ça fait 40 ans qu'on applique ces politiques que vous décrivez. Monsieur Macron, en 7 ans, a laissé un trou de 1 000 milliards de dettes supplémentaires.
Avec vous aussi, alors.
Laissez-moi parler, s'il vous plaît, Madame Delpech.
Oh, c'est un débat, milliards. Vous pouvez échanger entre
oui,
vous.
Oui, mais pas parler dessus.
Non, c'est une question.
Là, voilà. 1 000 milliards de déficit. Donc, je ne sais pas, on nous dit qu'on n'est pas sérieux, mais commençons déjà par dire que les politiques de Monsieur Macron nous ont menés droit dans le mur.
Je suis ravi de voir que vous vous intéressez à la dette.
Oui, puis j'ai une question, du coup,
et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vos politiques ne marchent pas. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et ce à quoi ça a conduit, c'est une maltraitance sociale. Et c'est un taux de pauvreté qui est grimpé à 15%. Moi qui suis bénévole dans une association envers les plus démunis, je peux vous dire qu'on voit les queues s'allonger et que c'est vraiment une catastrophe. Voilà. Donc, nos mesures, je vais vous les dire assez rapidement dans cette urgence. Il faut distribuer du pouvoir d'achat aux gens. On est bien d'accord. Pour ça, on bloque les prix alimentaires. Ça fait déjà 2 ans qu'on le demande, sans être écouté. On propose le SMIC à 1 600 euros, c'est-à-dire 2 000 euros brut. Il ne faut pas oublier le brut dans ces histoires.
Ça fait rire Clément Coulon, votre proposition.
Oui, mais je vais lui répondre. Je sais, il va me dire que ce n'est pas finançable, etc. Je connais. On propose l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 10%. On propose d'augmenter aussi les APL de 10%. Des prix planchers pour nos agriculteurs pour tenir compte de leurs coûts effectifs de production. Il y a eu une crise terrible chez les agriculteurs qui n'a pas été résolue. Monsieur Macron n'a pas du tout répondu à ce qu'il demandait. Et puis, le retour à la retraite à 62 ans et un moratoire sur on ne sait pas trop où on en est pour la réforme du chômage. Voilà, on ne sait pas trop si ça va être publié, pas publié. De toute façon, nous, on arrête tout. Voilà. Et tout ça, c'est financé avec des nouvelles recettes.
Alors, on va en parler dans quelques instants. Julie Delpech, vous vouliez répondre à ce que proposait Ghislaine Bonnet.
Juste deux points. Sur le décret sur l'assurance chômage, il va être publié au 1er juillet. Oui, pourquoi 1er juillet. Parce que les négociations ont échoué et que si les négociations échouent, les chômeurs ne sont plus indemnisés.
Pourquoi donc les vous négociations qui
vous qui défendez entre représentants. Donc à un moment donné, si vous êtes prête à dire aux chômeurs vous ne serez plus indemnisés, il n'y a pas de souci.
Et moi
j'ai juste un point sur la baisse de TVA sur les produits de première nécessité. C'est séduisant. Pas sur l'alimentation.
Non, c'est parce qu'on propose, Madame Delpech.
Bah, vous proposez
nous,
quoi,
on propose le blocage des prix.
D'accord.
Pas
et donc,
tout,
ça a été fait, ça a été fait par...
Pas mal le...
Est-ce que vous savez que ça a été fait en Hongrie par Viktor Orban? Alors, effectivement, ça a bloqué les prix sur l'alimentation. Par contre, ça a augmenté de 44% les prix sur les autres produits. Donc, ce sera une augmentation des prix de toute façon. Et surtout... C'est pas efficace, en fait.
Blocage des prix a été fait en France il y a plusieurs dizaines d'années avec les prix.
Ça a été fait en Hongrie il y a deux ans.
Il y avait un prix pour les baguettes de pain, etc. Je me souviens très bien.
Ça a été fait en Hongrie il y a deux ans.
Et ça marchait bien.
Et ça n'a pas marché.
Clément Coulon, vous vouliez réagir par rapport notamment au SMIC à 1600 euros.
Alors, sur le papier, honnêtement, moi je suis preneur. Hein. Clairement.
Tout le monde.
Moi aussi.
Et d'ailleurs, pourquoi s'arrêter à 1600? Pourquoi pas 2000? Mais en fait, la réalité, c'est que je pense que le débat est suffisamment grave pour ne pas tomber en fait, dans des propositions qui sont, pardonnez-moi, mais farfelues et qui sont juste un
quand
petit peu
populistes. Quand il s'agit des pauvres, c'est toujours farfelu.
Alors, mais qu'est-ce qui vous permet de juger que je suis le candidat des riches?
Ah ben bah écoutez,
qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
À entendre vos propositions.
Vous connaissez la retraite de mes grands-parents, agriculteurs, issus des...
Je vous attaque pas vous,
personnellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Du tout, hein.
Il faut arrêter de penser que la droite, c'est la grande bourgeoisie. Moi, je fais aussi partie de cette France qui bosse. Je suis issu d'une famille où mes parents bossaient 70-80 heures, mais je pense qu'il faut aussi revaloriser le travail. Et revaloriser le travail, c'est respecter les gens qui travaillent et faire aussi en sorte que ceux qui travaillent touchent aussi plus que ceux qui ne travaillent pas. Alors naturellement, personne n'est à l'abri d'avoir des difficultés dans la vie et il est important que la solidarité nationale puisse être présente lors de ces moments-là. Mais on doit aussi ne pas oublier que le projet et le système français, il réside sur la France qui travaille. Et si aujourd'hui les Français ne travaillent pas, on n'aura pas la possibilité de pouvoir payer ceux qui sont actuellement au chômage.
Puisque vous avez un petit peu de temps à récupérer, Clément Coulon, une question. Il y a Keynes, par exemple, qui dit qu'en augmentant un moment les salaires, on peut acheter davantage, donc on produit davantage, etc. etc. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une façon de regarder l'économie?
Oui, c'est une vision. Moi, je respecte toutes les visions, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Je pense qu'il est important de marcher sur deux jambes. La première, c'est celle de soutenir les ménages qui souffrent. Et en apportant un certain nombre de réponses, comme j'ai eu l'occasion de les proposer, mais aussi de pouvoir soutenir les entreprises qui aujourd'hui subissent une lourdeur administrative très importante pour pouvoir embaucher. Parce qu'il ne faut pas penser en fait, que les entreprises, c'est que le CAC 40. Les entreprises, c'est aussi le petit boulanger, c'est aussi le petit boucher qui a des difficultés.
Les artisans, les TPE,
voilà,
exactement. Les PME.
Et je pense qu'en fait, c'est ça aussi. Quand moi, je porte le message de soutien aux entreprises, je parle de ces entreprises-là et pas simplement de ceux qu'on essaye de vilipender à longueur de journée.
Dans un rapport du 19 juin 2024 réalisé pour 12 États membres de l'Union européenne, la Commission européenne a épinglé 7 États membres qui n'ont pas respecté en 2023 la limite des 3% de déficit public fixé par le pacte de stabilité et de croissance, un pacte qui limite aussi la dette à 60% du PIB. Et parmi ces pays épinglés, eh bien, il y a la France. La Commission a donc recommandé d'ouvrir des procédures pour déficit public excessif permettant de construire le budget 2025. Ça veut dire que les députés qui seront élus au 7 juillet auront la responsabilité avec le gouvernement de construire et de faire voter ce budget 2025, à moins que la procédure qui a été celle de la majorité actuelle, soit de ne pas faire voter les parlementaires, mais de passer par une autre procédure.
Alors les 49.3, c'est pas que cette majorité, hein, ça a toujours existé, c'est un outil constitutionnel.
On en avait usé et abusé.
On en a eu
6
et vous avez déposé 57 motions, la France Insoumise a déposé 57 motions de rejet sur des textes. Donc dire qu'un 49.3, c'est...
49.3, non,
il y a eu 6 49.3.
Ah non.
Si, sur des textes budgétaires, que sur des textes budgétaires.
Ah, que sur des textes budgétaires.
Non, mais il y a eu des 49.3 que sur des textes budgétaires, madame.
Des 49.3, on en a compté au minimum 13.
Sur quoi ?
Sur un autre. Mais à un moment,
non, mais sur quoi d'autre qu'un texte budgétaire ? Dites-moi.
Sur plein d'autres
sujets.
Il
y a eu que sur les PLF et PLFSS.
Non.
Eh ben si. Bah alors là, je vous enverrai la liste des 49.3. Il n'y a pas de souci.
Avec plaisir.
Parce qu'un 49.3, je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne à l'Assemblée nationale. On ne peut en utiliser qu'un par an hors texte budgétaire. Donc on n'en a pas fait ailleurs que sur des textes budgétaires. Sinon, si on ne fait pas de 49.3 sur les textes budgétaires, c'était vrai aussi avec François Hollande, candidat du Nouveau Front Populaire, je le rappelle, la France ne se dote pas de budget puisque par principe, les oppositions ne votent pas le budget. Et dans le cas d'une majorité relative, on prend le risque de dire à nos fonctionnaires qui ne gagnent pas non plus des milliers de cents qu'ils ne seront pas payés si la France n'a pas de budget. Mais je vous le redis, je vous enverrai la liste des 49.3 et ils ne sont que sur des textes budgétaires.
Clément Coulon, candidat à Les Républicains, avec ses recommandations de la Commission européenne, comment envisagez-vous de financer vos propositions pour répondre à ce qu'attendent les Français pour que le pouvoir d'achat puisse être amélioré et en tout cas tenir compte de cette dette, puisqu'il va falloir que la France réponde à la Commission européenne?
Emmanuel Macron a mis la France au bord de la faillite avec 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Alors oui, on va me dire, ok, le Covid, j'anticipe.
240 millions.
Mais je pense que le Covid a un peu le dos large. Naturellement, ça aurait été une autre majorité politique. Il y aurait eu des difficultés aussi, mais je pense qu'elle a un petit peu le dos large. Mais rassurez-vous, LFI prévoit des centaines de milliards d'augmentation d'impôts. Et le RN prévoit, lui, de son côté, plus de 100 milliards de dépenses supplémentaires. Moi, je m'inscris dans une famille politique où, en fait, le sérieux budgétaire, c'est quelque chose qui est très important. Je raisonne avec le bon sens du paysan sartois. C'est-à-dire que l'argent gratuit, ça n'existe pas et un jour ou l'autre, il faudra payer la facture. On a, au niveau de ma famille politique, Les Républicains, prévu un contre-budget qui apporte à plus de 25 milliards d'euros des dépenses qui actuellement sont réalisées et qui seraient donc réformées avec l'indemnisation du chômage plus 6 milliards, créer un système unifié de prestations de solidarité comme l'avait d'ailleurs proposé François Fillon avec plus de 2 milliards, et après on a au moins 17 propositions qui nous amènent jusqu'à 25 milliards de dépenses réformées.
Julie Delpech, comment on fait avec le déficit de la France et comment on finance justement des propositions, parce que ça va avoir un coût, hein, les propositions concernant le pouvoir d'achat?
Bien sûr. Moi, j'entends qu'on puisse penser que le Covid a le dos large. Je pense que si on n'avait pas protégé autant les Français et les entreprises, aujourd'hui, on aurait un taux de chômage bien plus élevé qui coûterait aussi de l'argent à la société, puisque c'est normal en France, on accompagne les chômeurs, mais ça coûterait de l'argent. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que le Covid a le dos large et je pense qu'on n'en aurait pas fait autant. C'est quelque chose qu'on pourrait nous reprocher. On est le pays d'Europe qui a le plus protégé. Après, sur les propositions, nous, on a des choses qui ont déjà été votées dans les précédents budgets et il y a ce souhait de pouvoir continuer. Aujourd'hui, il y a un sujet de dette, il y a un sujet de responsabilité. Je pense que l'extrême droite et le Nouveau Front Populaire ne sont pas dans cette logique de responsabilité et de faire attention à la dette. On peut nous reprocher la dette, mais on n'a pas, un budget et en tout cas des propositions qui explosent encore les compteurs, puisqu'aujourd'hui, on est en train de faire 10 milliards d'économies.
Mais vous comprenez que les Françaises et les Français qui vont voter dimanche et dimanche prochain, inévitablement, avec cette information de la Commission européenne, ceux qui vont arriver au pouvoir vont avoir des décisions à prendre. Donc inévitablement, parce que je me fais un peu le porte-parole des électrices et des électeurs, on pense tout de suite à qu'est-ce qui va encore nous arriver, sur quoi on va encore se serrer la ceinture.
Mais vous
comprenez que les Français puissent penser ça ?
Je le comprends tout à fait et c'est pour ça que nous, dans les propositions qu'on fait, on est réaliste, on ne fait pas des propositions électoralistes pour faire plaisir. Et qu'aujourd'hui, vous le dites vous-même, avec une dette de 1000 milliards, comment on passe un SMIC à 1600 euros? Comment on remet la retraite à 60 ans, à 62 ans? Enfin, c'est des promesses qui font envie, qui font plaisir, mais vous le dites tous autour de la table, le déficit ne le permet pas.
Comment faire, justement, Gisèle Bonnet, la fois satisfaire les attentes très forte, hein, on le répète, ouais, des Françaises et des Français sur le pouvoir d'achat et en même temps essayer de réduire le déficit de la France.
pour nous, c'est assez simple. Pour pouvoir être à l'équilibre, il faut des nouvelles recettes. Si on dépense plus, eh ben, on récupère plus d'argent. Et comme je le disais tout à l'heure, on va chercher dans les bonnes poches. C'est-à-dire que nous, on va... Je réponds déjà pour une première chose sur cette alerte sur le SMIC à 1 600 euros. On se doute bien que pour les grosses entreprises...
De Clément Coulon.
Pour les grosses entreprises, ça ne posera pas de problème. De l'argent, ils en ont à foison, ce n'est pas un problème pour eux. Pour les PME et les TPE, c'est autre chose. Mais là, nous aurons une vigilance très particulière.
Ça représente
nous mettrons
une
en
très
place
large
tout
des
ce qu'il
en
faut. Je sais. Nous mettrons en place tout ce qu'il faut, un pôle public bancaire et financier qui fera les avances nécessaires et qui leur permettront de faire face à ces nouvelles charges. En attendant que leur carnet de commandes se remplisse, puisque c'est ça l'objectif. Si les gens ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens qui gagnent actuellement 1 400 euros, les 200 euros de différence, ils vont acheter avec.
Mais les prix vont augmenter.
Donc,
si on augmente les salaires.
Les prix ne pas. Non, ça c'est. Je c'est réfute complètement.
Parce qu'il y aurait une corrélation entre l'augmentation des salaires et l'augmentation des prix.
Moi j'ai vu justement.
L'augmentation des prix, c'est fait là.
J'ai vu un artisan là qui me dit, mais moi si j'augmente tout le monde à 1 600 euros, je dois augmenter mes prix. Pour les travaux, j'ai pas le choix.
Comment
de 20%.
Comment
les gens vont payer 20% de travaux en
comment
plus?
Comment expliquez-vous, si vous considérez que cette boucle est la bonne, comment expliquez-vous qu'il y ait une telle inflation actuellement?
Mais l'inflation, voilà. Elle est mondiale.
Excusez-moi, mais oui, laissez-moi parler.
Bien sûr.
Donc nous, ce qu'on veut, c'est enclencher un cercle vertueux, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux gens, donner de l'espoir aussi. Et ce cercle vertueux, c'est j'ai plus d'argent, je le dépense, je le réinjecte dans le système économique réel, et non pas sur le côté économique irréel. On va arrêter les cadeaux fiscaux qui sont pour beaucoup complètement inutiles.
Lesquels, par exemple ?
Les niches fiscales. Il y a des niches fiscales. Qui sont complètement inutiles et qui nous coûtent très très cher.
Mais lesquels, par exemple, pour être concret ?
Pour être concret, alors je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça en tête. Par exemple, la niche fiscale sur les œuvres d'art et choses comme ça. Voilà. On va aussi augmenter les impôts sur les très grosses successions. Quand on dit les très grosses successions, c'est les très grosses successions avec beaucoup de zéros derrière. Et on va surtout instaurer des tranches d'impôts à 14 tranches. Voilà, 14 tranches d'impôts au lieu de 4 ou 5 actuellement, je ne sais plus. Donc, ce qui va permettre de récupérer pas mal de milliards et surtout de donner encore du pouvoir d'achat aux gens, puisque en dessous de 4 000 euros par mois, les gens ne paieront pas plus d'impôts. Voilà.
Clément Coulon,
au total, excusez-moi. Au total, on a 100 milliards de recettes fiscales, uniquement les recettes fiscales. Ça nous apporte 100 milliards.
Clément Coulon, comme il nous reste un petit peu de temps, vous vouliez réagir à ce qui a été annoncé par le nouveau Front Populaire.
Oui, alors pour ce qui est des impôts sur les successions, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis désolé, mais c'est un impôt sur la mort. C'est un impôt sur la mort et je trouve ça d'autant plus grave que l'on balaye d'un revers de main l'épargne que des Français qui travaillent ont pu mettre toute leur vie de côté pour leurs enfants. Et je trouve que c'est particulièrement méprisant parce qu'on voit en fait la richesse qui est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait on ne voit pas tous les sacrifices qui ont été menés pendant des années.
L'État se sert déjà pas mal. Hein.
Oui, oui, il se sert déjà pas mal, mais moi personnellement je considère que c'est déjà
Monsieur,
particulièrement
Monsieur Coulon, injuste. Je parlais des très grosses successions, pas du tout des successions qui sont généralement en France, ça doit être 100 000 euros, quelque chose comme ça, les successions pour les gens ordinaires comme nous. Ça n'a rien à voir du tout.
Et le deuxième point qui moi, m'a interrogé, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais c'est sur les niches fiscales. Il y a des niches fiscales qui, aujourd'hui, permettent à un certain nombre de secteurs de survivre. Je pense au monde associatif, au monde de la culture, parce qu'il y a
on
le...
On n'y touchera pas.
Oui, mais sauf
qu'on n'y touchera pas.
En fait, vous voulez toucher, mais sans rien toucher. Donc, c'est un peu compliqué de comprendre.
Non, on touchera aux niches fiscales qui nous coûtent très cher qui ne rapportent rien à l'économie. Celles-ci, ce sont des bonnes niches fiscales. On va faire le tri.
Ah, donc il faudra nous dire qu'est-ce qui est bon pour les niches fiscales, pas bon, il faudra donner des bons points.
Celles qui nous coûtent trop cher sans rien nous rapporter.
Je vous propose de passer au thème, un autre thème qui intéresse les électrices et les électeurs, c'est l'insécurité. Les chiffres de la criminalité et de la délinquance constatés en France en 2023 ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, c'était le 31 janvier 2024. La quasi-totalité des indicateurs sont en hausse par rapport à l'année 2022, mais une hausse moins importante que celle de 2021. Sur l'année 2023, pour donner quelques exemples, les hausses les plus fortes concernent les homicides, plus 5%, les tentatives d'homicide, plus 13%, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus dans le cadre familial, de plus 9%, les violences sexuelles, plus 8%, sachant que cette hausse concerne davantage les viols et tentatives de viol que les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement sexuel. Et puis, s'agissant des atteintes aux biens, les escroqueries continuent d'augmenter, plus 7%, les vols contre les personnes sont globalement en baisse sur un an, moins 8%. Les infractions liées aux stupéfiants évoluent peu. Les cambriolages augmentent, eux, de 3%, tout comme les vols de voitures, de plus 4%, et les vols dans les véhicules, de 5%. C'était important de repréciser ce qu'on entend en France par insécurité. Parce que si on entend les débats qui ont lieu actuellement, si on entend ce que disent les gens dans la rue, je pense que pour eux, l'insécurité, ils ne pensent pas forcément à ces éléments-là qui sont des éléments d'appréciation. Parmi les personnes mises en cause par des infractions élucidées, elles sont plus jeunes que la moyenne. Les étrangers représentent 17% au total, donc 77% des personnes mises en cause ne sont pas des étrangers. Quelles sont vos propositions sur le bien vivre ensemble, et j'insiste sur le bien vivre ensemble, pour répondre à l'insécurité, ou en tout cas à ce qu'on peut peut-être appeler le sentiment d'insécurité? Et c'est Clément Coulon qui commence pour le candidat Les Républicains, puisque le tirage au sort vous a désigné.
Je pense que l'insécurité est l'une des raisons pour laquelle le Rassemblement National est arrivé en tête des élections européennes. Aujourd'hui, qu'on se dise les choses, hein, c'est pas pour le volet économique ou pour les propositions en matière d'écologie que le Rassemblement National est arrivé en tête des européennes. Ils sont arrivés en tête des européennes parce qu'il y a une inaction, ou en tout cas très peu de résultats, menés par le gouvernement, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Pour nous, il est essentiel de pouvoir remettre de l'ordre dans notre pays. Et remettre de l'ordre dans notre pays...
Vous pensez que le pays est en désordre ?
Ah ben bien sûr. Enfin, c'est évident. On a eu l'occasion de le voir avec les émeutes l'année dernière. Ça part dans tous les sens.
Alors qu'ils ont démarré en raison d'un fait d'actualité aussi.
Oui, bien sûr.
Elles n'ont pas été spontanées, ces émeutes.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une émotion par rapport à ce qui s'est passé. Mais moi, personnellement, je pense que rien ne permet de légitimer la violence dans notre pays. Rien ne permet aussi de détruire des biens publics. Parce qu'on nous dit depuis des années, oui, mais regardez la banlieue et la grande oubliée. Mais la réalité, c'est qu'on déverse des milliards d'euros depuis plus de 40 ans dans la politique de la ville, alors qu'à côté de ça, la ruralité, qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ils brûlent rien, ils ne cassent rien, ils font partie de cette France qui...
Mais pourtant, ils votent Rassemblement National majoritairement.
Eh bien, pour la même raison, justement. Parce qu'ils...
Bah, comment comprendre finalement ce phénomène ?
Eh bien...
Puisque vous dites que c'est l'insécurité qui a fait voter Rassemblement National.
Oui, mais parce que je pense qu'ils voient ce qu'il se passe dans les grandes centralités en se disant ça arrive parce qu'il y a eu également Crépole qui arrive dans les territoires ruraux, et je pense qu'il est essentiel de pouvoir être conscient de cette problématique, parce qu'après on peut se mettre la main devant les yeux et dire non mais il se passe rien, ce ne sont que des faits divers, et je pense qu'il est essentiel de pouvoir répondre, et je pense que c'est la réponse à ces problématiques qui permettront aussi de faire baisser le Rassemblement National, parce qu'en fait mener une campagne anti-RN, ce n'est pas un projet politique. Donc nous, on a un certain nombre de propositions. Tout d'abord, améliorer les moyens donnés aux policiers, lutter contre un fléau de la drogue, parce que depuis un certain nombre d'années, on voit fleurir le discours anti-police, qui aujourd'hui n'est pas, comment dire, qui moi me choque profondément.
Même si quelquefois la police a aussi frappé des gens et c'était pas forcément justifié, il y a eu des procès.
Alors oui, naturellement, il peut y avoir des policiers qui se sont mal comportés.
Mais ce que je veux dire, on peut pas faire l'un et l'autre ou l'un sans l'autre.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut pas non plus essentialiser. On ne peut pas dire parce qu'il y a quelques policiers qui se sont mal comportés que l'institution police n'est pas à la hauteur. je pense qu'il est essentiel de pouvoir soutenir nos policiers.
Mais ceux qui disent des choses sur les policiers ne sont pas non plus tout le monde. Voilà, c'est le même dosage,
oui,
finalement.
Bien sûr, je pense que voilà, il est important que chacun puisse s'exprimer par rapport à ça. Mais je pense qu'il est important de respecter l'uniforme parce que ce sont aussi des pères de famille, des mères de famille qui s'engagent, qui eux aussi ont des inquiétudes par rapport à leur retraite, par rapport à leur fin de mois. Et je pense qu'ils font partie de ceux qu'on appelle les gardiens de la République. Et donc, on a un certain nombre de propositions, également la réforme du système judiciaire avec la réponse pénale. On a également une véritable lutte contre les mineurs délinquants. Vous l'avez évoqué, aujourd'hui, on a une délinquance qui est de plus en plus jeune. Je pense qu'il faut réduire l'âge à 16 ans parce que...
Comment vous l'expliquez ça, par exemple, que cette délinquance devient de plus en plus jeune? Parce qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe.
Je pense qu'il y a un manque de fermeté dans notre pays.
De la part de qui?
Alors, global. Parce que moi, je considère que ce n'est pas uniquement la police qui pourra remettre de l'ordre dans le pays. Je pense qu'il est important de responsabiliser les parents. De les responsabiliser financièrement, les parents des enfants délinquants. C'est-à-dire que moi, personnellement, ce ne sont pas les policiers qui m'ont expliqué à faire la différence entre le bien et le mal. Alors naturellement, on va me dire oui, mais les cadres familiaux sont compliqués, etc. Mais en fait, il faut arrêter de trouver des excuses, il faut trouver des solutions. Pour moi, un jeune délinquant, ce n'est pas un jeune en perte de repère, c'est un délinquant. Et il mérite d'être sanctionné par rapport à ça.
Donc vous proposez la suppression, par exemple, des allocations familiales
Alors, naturellement, je pense que ça, c'est un certain nombre de choses.
Ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, je crois.
Oui, mais je pense qu'il faut pouvoir...
Mais on a vu que c'était pas efficace.
Non, mais je pense que le débat doit avoir lieu, mais il est important, pour moi, de pouvoir responsabiliser financièrement les parents. Les parents ont une responsabilité dans ce cadre-là. Mmh. Parce que donner l'éducation à ses enfants, c'est aussi leur expliquer comment est-ce qu'on doit se tenir dans une société.
Ghislaine Bonnet, sur cette question-là, puisque le tirage au sort vous est désigné en seconde, vous êtes candidate à la France Insoumise pour le nouveau Front Populaire.
Oui, moi j'ai envie de demander qui est responsable du désordre de cette société. J'ai envie de dire qui brutalise le pays depuis 7 ans. Qui sont les responsables? Depuis 7 ans, moi je ne vois que Emmanuel Macron au pouvoir. Qui brutalise les gens? Qui les empêche de vivre sereinement? Qui les empêche d'avoir des fins de mois apaisées? Nous, on a envie d'une société apaisée, plus juste, une société qui respire. Voilà ce que veulent les gens. Grâce à des mesures sociales, pour pouvoir ne pas travailler comme des brutes. Travailler comme des brutes, c'est aussi ce que disent les gens. On travaille comme des brutes, des 10 heures, des 12 heures.
Alors si on peut rester simplement sur les questions d'insécurité,
oui,
s'il vous plaît.
Oui,
c'est ça.
D'accord. Du coup, j'ai perdu mon fil.
Qu'est-ce qui, d'après vous, explique qu'il y ait ce sentiment d'insécurité qui est ressenti par les Français? Puisque si on croit ce que dit Clément Coulon, c'est ce qui les aurait davantage amenés à voter Rassemblement National aux dernières européennes.
Il n'y a pas que cette histoire qui est importante. Hein, il faut tenir compte de ce sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément qu'un sentiment, d'ailleurs, qui est aussi visible. Les gens le voient, hein, voilà, on voit les faits divers, etc. Hein. Mais il faut bien savoir quand même que Emmanuel Macron fait le jeu des uns contre les autres. Il instille cette petite musique dans la tête des gens. Dans les entreprises, il faut être les uns contre les autres. Donc, évidemment que ça se répercute dans l'attitude de chacun. Que ce soit des jeunes, que ce soit des parents. Mmh. Et puis, moi, qu'on culpabilise les parents alors que les
responsabiliser,
parents... Responsabiliser les parents,
vue, après,
si vous voulez
c'est...
responsabiliser, voilà. Il n'y a pas que les parents dans l'histoire, il y a aussi l'école qui n'est plus à la hauteur. Il y a aussi les humains qui ne sont plus sur le terrain.
Oui, qui n'est pas à la hauteur, parce que son rôle, c'est d'instruire, c'est pas d'expliquer le
absolument.
Bien et le mal.
Absolument, mais s'il n'y a pas suffisamment d'êtres humains et si on a des classes blindées à 30 élèves par classe, ça favorise aussi ce sentiment-là.
Julie Delpech, sur ce sujet de l'insécurité, qui est quand même le deuxième point important de cette campagne qui est ressortie notamment des européennes, qu'est-ce que vous proposez pour le mieux vivre ensemble et surtout comment on fait pour lutter contre cette insécurité ou ce sentiment d'insécurité?
Alors déjà, moi, il y a des choses que j'entends, je ne suis pas en accord. Depuis deux ans que je suis élue, on a voté la loi sur les dérives sectaires pour protéger les plus démunis. Et c'est un sentiment d'insécurité qu'on est démuni de se faire prendre dans une secte. Le RN, LFI, les LR ont voté contre. On a voté la loi de sécurisation de l'espace numérique. Le RN et LFI ont voté contre. Là, on parle d'insécurité, on parle de violence des jeunes. Pourquoi si jeunes ? Moi, je pense que les réseaux sociaux ont aussi un impact. Et cette loi de régulation de l'espace numérique, on a l'extrême droite et une partie, enfin, et LFI qui ne l'a pas votée. On a mis un budget qui n'a jamais été mis sur la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Évidemment, LFI s'est abstenu. À un moment donné, il faut plus de policiers, il faut plus de moyens. Donc ça, c'est une réalité. On a, depuis 2017, 25 000 policiers et gendarmes supplémentaires formés et sur le terrain. Il faut continuer. Il faut aller plus loin. Là où je rejoins Monsieur Coulon, c'est que je pense qu'il faut quand même lever l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants, et qu'il faut une sanction immédiate et une comparution immédiate. Là où je ne suis pas d'accord, c'est d'aller impacter parfois des mamans solo qui ont du mal.
Les familles monoparentales.
Les familles monoparentales, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et je le dis. Et pour en avoir rencontré beaucoup, parce qu'une mission venait d'être lancée, et j'ai passé un après-midi avec elles, et c'est vrai que c'est des femmes qui travaillent, qui ont plusieurs enfants et qui ne peuvent pas être tout le temps derrière leurs enfants. Et comme les enfants sont sur les réseaux sociaux, moi, je crois vraiment à l'impact des réseaux sociaux sur notre jeunesse. Et donc, nous, on a aussi ce souhait de pouvoir interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, parce que, vous le dites, l'âge a baissé. Déjà, il faut voter des lois, mais vous ne les votez pas. Donc, c'est déjà
peut-être
un premier pas en général.
Les lois ne sont pas à la hauteur.
Bah, peut-être, mais en tout cas, on essaye. Et de voter contre, quand on vote contre, on ne fait rien. Donc, nous, on a ce souhait de pouvoir abaisser l'âge à 15 ans. Mais effectivement, mais après, il y a tout ce côté bien vivre ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on travaille. Les divisions ne sont jamais bonnes. Et je pense que d'un côté et de l'autre, on crée beaucoup de divisions. Je pense que le bloc central qu'on représente, tout pour se bien vivre ensemble et que chacun se sente respecté.
On arrive pratiquement au terme de ce débat, mais il faut quand même qu'on parle un petit peu du climat par rapport à la première circonscription de la Sarthe. On aura l'occasion, avec d'autres candidats qui représentent vos partis politiques, d'en parler sur d'autres circonscriptions. En tout cas, entre 2010 et 2022, le réchauffement de la planète s'est largement imposé comme la principale préoccupation environnementale des Français. En quelques mots, quelles sont vos propositions sur l'urgence climatique ? Clément Coulon, c'est encore avec vous, puisque le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Vous êtes le candidat Les Républicains. Très rapidement.
À travers la question des enjeux climatiques, je pense que c'est un enjeu qui est générationnel, transgénérationnel. Mais notre génération aura encore plus une responsabilité à mener dans ce combat. Je pense qu'il faut aussi être réaliste par rapport aux enjeux climatiques. On a parlé tout à l'heure des fins de mois des gens, mais il y a aussi l'idée de la fin du monde. Je pense qu'il est essentiel aussi de ne pas raisonner que par simple idéologie. Par exemple, je serais curieux de savoir quelle est la position du nouveau Front populaire sur l'écologie et notamment sur la question du nucléaire. Parce que je sais que les écolos sont contre, mais que, par contre, le Parti communiste est actuellement pour. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui, comme Fabien Roussel, sont favorables au nucléaire.
Question
parce qu'on
règle entre nous, ne vous inquiétez pas.
Ah, oui. Hein?
Notre position sera claire.
Ah bon, ben, c'est très bien. Parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair pour les électeurs. Mais en tout cas, je pense qu'il est essentiel de pouvoir poursuivre, en tout cas sur le nucléaire, qui est une énergie décarbonée, mais il faut également pouvoir investir massivement dans la recherche pour pouvoir offrir une offre énergétique aux Français.
Jessem Bonnet, sur cette question de l'urgence climatique, vous êtes candidat de la France Insoumise, nouveau Front Populaire.
Alors je dirais deux mots, stop à la destruction de la planète et bien-être humain mis en avant. Et pour ça, on entame la planification écologique avec une loi énergie visée neutralité carbone en 2050. On a très peu de temps, je n'ai pas le temps de m'apesantir sur tout.
On invite ceux qui nous écoutent à aller sur vos réseaux sociaux.
Le programme du nouveau Front Populaire est en ligne. On veut conserver la biodiversité, on en parle beaucoup. Il faut conserver la biodiversité, protéger les arbres, protéger la nature, protéger les terres agricoles. Il faut décréter que l'eau, c'est notre bien commun et faire tout pour la conserver comme bien commun. Et puis, on veut une agriculture écologique et paysanne.
Sachant que votre suppléante est écologiste.
Ma suppléante, Nathalie Buchaud, est écologiste.
Julie Delpech, sur ces mesures hyper importantes, quelles sont vos préconisations si vous êtes élue députée demain dans la majorité présidentielle ?
Là, il y a des choses qui ont été faites. On a réduit en 2023 de 5,8% les émissions de gaz à effet de serre. Juste en 2023, avant 2017, c'était 1% par an, donc on a fait 6 fois mieux. Donc je pense qu'on a déjà fait des choses. Je suis ravie d'entendre Madame Bonnet qui dit qu'il faut une loi, parce qu'on vient de voter une loi sur l'accélération des productions des énergies renouvelables que LFI n'a pas voté. Et donc, ni LLR ni l'ERN, mais LFI ne l'a pas voté, donc je suis assez ravie de vous entendre dire qu'il faut une loi. Elle existe déjà. Et on espère que si vous serez en...
Je fais confiance à mes camarades.
Peut-être que c'est des oppositions de principe, parfois.
Non, pas du tout.
Mais en tout cas, je rejoins Monsieur Coulon sur le nucléaire, moi j'y suis favorable. Au titre aussi, au même titre que le développement des énergies renouvelables, loi que pour ma part j'ai votée, on a le projet d'avoir 8 nouveaux réacteurs nucléaires qui polluent moins. On va poursuivre aussi les leasings à 100 € pour les véhicules électriques et également on va rénover 100% des logements CROUS parce que ça touche les étudiants et ceux qui ont le moins de moyens.
Votre processus et puis vous n'avez pas fait grand chose pour l'instant.
Bah écoutez, moi je suis là depuis 2 ans, je pense qu'on a déjà fait beaucoup non. Et avec des oppositions qui s'opposent par principe, on a quand même réussi à avancer et il faut continuer effectivement.
Nous arrivons au terme de ce débat pour conclure en une minute, vraiment une minute. Voilà, quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur ? Le tirage vous a désigné Julie Delpech, vous êtes députée sortante Ensemble pour la République, majorité présidentielle.
Merci beaucoup, donc encore merci pour ce débat et même dans nos désaccords c'est toujours riche pour la démocratie d'échanger tous ensemble. Moi je suis candidate à ma réélection, encore une fois je l'ai dit, pour poursuivre des choses qui ont été mises en place mais surtout aller plus loin sur ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ou moi des choses où j'aurais souhaité pouvoir agir autrement et cette nouvelle assemblée je l'espère va nous le permettre mais sans avoir les extrêmes au pouvoir parce que je pense que ça mettra un coup d'arrêt à notre pays et qu'aujourd'hui on ne peut pas se le permettre donc il faut des décisions responsables et moi ce qui me tient à cœur c'est qu'on puisse agir sur le pouvoir d'achat des Français et ça sera ma priorité numéro une.
Clément Coulon, vous êtes le candidat Les Républicains, quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur ?
Alors, enfant du Nord-Sarthe, j'ai grandi entre Le Mans et la campagne sartoise et l'un des points qui me tient le plus à cœur et qui transpire aussi de ma personnalité, c'est défendre les territoires ruraux. Les grands oubliés depuis trop longtemps, c'est la raison pour laquelle je souhaite m'engager pour mettre fin à la gabegie des dépenses sur la politique de la ville et mettre le principe du 1 euro dépensé pour la ville, 1 euro pour la ruralité. C'est la raison pour laquelle en fait, je souhaite m'engager contre les déserts médicaux en orientant pendant une année les internes docteurs vers les zones carencées.
Ghislaine Bonnet, vous êtes candidate pour la France Insoumise, investie par le nouveau Front Populaire. Quel est un point de votre programme qui vous tient particulièrement à cœur ?
Le point global de mon programme, ce serait en juste 3 mots, redistribuer les richesses. C'est-à-dire prendre l'argent là où il est pour redonner de l'espoir aux gens avec notre programme de rupture. C'est ça qui me tient à cœur. Mettre en place ce programme de rupture pour redonner de l'espoir aux gens, leur redonner l'espoir de vivre.
Merci à vous trois d'avoir participé à ce premier débat dans le cadre des élections législatives anticipées sur la première circonscription de la Sarthe. Sont aussi candidates sur la première circonscription Sylvie Maillet pour Lutte Ouvrière et Céline de Cossé-Brissac du Rassemblement National. Rappelons que les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Merci aux candidats donc présents pour ce débat et leur contribution au débat démocratique est très important en ce moment. Merci à Romain Linan pour sa réalisation et à l'équipe de la rédaction, Robin Hulin, Brian et Merlin qui ont participé à l'animation et l'organisation de ce débat. Demain, toujours en direct de midi à 13h, nous recevrons tous les candidats de la deuxième circonscription pour que vive la démocratie. Dimanche, votez pour élire votre député.